Bonjour à tout le monde. C'est bien de voir vos visages. Tout le monde qui est resté debout jusqu'à minuit et 1h du matin pour voir les feux d'artifice qui ne sont pas sonnés. Voilà. Oh, si tu peux afficher le passage, Nico. J'ai un passage du Nouveau Testament que je vais lire ce matin. Je suis que vous êtes tous déjà au courant de ce passage. Vous avez l'entendu, je suis maintes fois. Mais c'est beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Il y a plein de choses qui sont imbriquées dans ce passage. Il faut creuser, réfléchir pour les trouver, une vraie source de bénédiction. Et c'est écrit 3 fois dans le Nouveau Testament. Et je vais choisir le passage de Marc 5, 21 à 43. Et ça correspond avec le passage en Luc, où quand Jaïrus est venu voir Jésus, chercher Jésus, il a dit, « Ma fille est en train de mourir. » Et dans le passage, en Matthieu, ça dit, « Ma fille est morte déjà. » Donc, je vais prendre Marc. Je prêcherai différemment si j'avais choisi Matthieu chapitre 9 pour les raisons évidentes. Mais 2 des 3 passages parlent du fait que la fille de Jaïrus était en train de mourir. Donc, lisons. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. C'est juste comme on a chanté tout à l'heure le chant de Philippe Descouroux. Devant lui, nous nous courbons. Il est Seigneur. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle est allée plutôt empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et en retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui la presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient poussaient des cris de larmes, de malheur. Ce n'est pas écrit, mais ils n'étaient pas en train de crier pour leur équipe de foot, ça c'est sûr. Il entre et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi. » Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Plein de choses ici dedans. Il y avait un homme qui faisait une marche par la foi. Il s'appelait Jairus. Il était en train de chercher Jésus parce qu'il a entendu de tous les miracles liés à son ministère. Et il a eu besoin d'une guérison parce qu'il était en train d'être devant sa fille qui était gravement malade. C'était un homme avec beaucoup de choses à perdre, Jairus. Déjà, il était en train de perdre sa fille, une fille qu'il aimait beaucoup. Elle était presque morte. Il faisait partie des chefs de synagogue qui étaient contre Jésus en général. Donc, en allant vers Jésus, il risquait de perdre peut-être sa place parmi les chefs des synagogues. Il n'est pas venu en pleine nuit comme Nicodème, mais il est allé le chercher en plein jour, et cela devant une grande foule en public. Jairus était un réaliste. Il savait que sa réputation comme chef de synagogue ne pouvait pas sauver la vie de sa fille. La loi sur laquelle il a basé sa vie, qu'il a prêché, enseigné, il savait que la loi ne pouvait pas sauver sa fille. Ces choses, réputation, la loi, ne donneraient pas la vie. Et il en était conscient. Non, il a fallu faire quelque chose de radical. Jairus avait entendu parler de la puissance de Jésus. Et il a compris que c'était ça qui allait sauver la vie de sa fille. Il marchait vers Jésus en jetant de côté sa réputation, sa position de chef de synagogue. Peu importe, il s'est prosterné aux pieds de Jésus. En public, il l'a fait, devant tout le monde. Lui, en général, qui était censé de représenter les religieux qui disaient « Nous avons les réponses pour vous », pas ce Jésus qui vient dire que « Moi, je suis quelqu'un, quelqu'un à suivre. Il faut me croire. » Il a dit « Non, 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 non. Notre synagogue, ça va, la loi, ça va, c'est assez. Et pourtant, le réaliste en lui a choisi de dire, « J'ai besoin, s'il te plaît. » Il s'est prosterné devant Jésus. Quel amour il avait pour sa fille de risquer tout ça, tout son avenir. Mais il aimait sa fille tellement. Jésus, s'il te plaît, imposez vos mains sur ma fille afin qu'elle vive. Venez, guérissez-la. Venez à ma maison. Jésus était d'accord. Et Jésus suivait Jairus. Jésus suivait Jairus. On ne sait pas exactement les pensées de Jairus à ce moment-là. C'est possible qu'il était rempli de l'espérance. Jésus est en train de me suivre. Merci Yahweh. Merci Papa Céleste. J'ai de l'aide. Ou bien peut-être il a pensé, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon avenir comme responsable religieux est dans la balance. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer si Jésus ne peut pas guérir ma fille? Je perdrai sa vie, mon poste, ma réputation. Qui sait ce qui trottait dans sa tête? Toutes les possibilités sont là. À ce moment, je crois que Jairus avait besoin de l'encouragement, une vraie stimulation de sa foi. Et il allait bientôt vivre une grande épreuve. Donc, il a eu besoin d'un appui. Jésus était au courant de cette épreuve qui venait. Et voilà, il a laissé Jairus avoir le privilège d'être présent et témoigner une guérison miraculeuse, parce que Jairus en avait besoin. En verset 25, on voit entrer une femme malade. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Pourtant, dans un instant, elle allait être guérie par Jésus. Je dois dire, de point de vue humain, ce miracle, bon, ce n'était pas grand-chose. Hein? Tout simplement parce que personne ne voyait rien. Ce n'était pas comme on avait un aveugle que tout le monde connaissait et tout d'un coup, il voit tout le monde étonné. Oh, choquant, c'est incroyable. Ce n'était pas comme on avait un paralytique accroupi par terre, et tout d'un coup, il se lève et il marche. Bon, ça, c'est un miracle. Mais ici, il y avait quelque chose de caché, ça semble. Ça semble. Est-ce que c'était si caché que ça? Ça, c'est le premier miracle du texte. Mais pour Jairus, c'était pas un petit miracle. Ce n'était pas un secret du tout. Comme chef de synagogue, il était conscient de toutes les lois du peuple juif. Ceux qui ont en perte de sang étaient considérés comme impurs. Ils devaient rester hors du camp, hors de la ville. C'est par peur de contaminer d'autrui. On risquait la vie des autres, les amis. La punition était d'être expulsé loin de tous. Punition, ça c'est trop dur à dire. C'était une mesure de garde-fou pour la communauté, tout simplement. Cela était la raison pour laquelle elle est venue vers Jésus, en tremblant de crainte. Elle sentit une guérison, mais elle est venue vers Jésus en tremblant de crainte. Et bien sûr, elle a tout dit devant la foule, devant Jésus, J'ai touché tes vêtements. Voilà. Jaïrus était conscient du fait que la dame avait tellement peur d'être mise hors de la ville, isolée de tout le monde. Elle souffrait déjà. Et en plus, on va mettre ça sur son dos. Jaïrus était au courant de ce qu'elle réfléchissait à ce moment-là. Et il a dit, elle n'allait pas admettre publiquement ce qu'elle a fait et le pourquoi de cela, sauf si elle était vraiment malade, elle était vraiment guérie. Donc, la guérison semble être cachée, mais ce n'était pas si caché que ça. Non, Jaïrus a dit, ça, c'était un vrai miracle. Mais Jaïrus était aussi marqué par les paroles de Jésus qui suivaient. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Une vérité si simple, « Crois et tout va aller. » Bien, il faut que je croie. J'imagine qu'il a eu cette pensée dans son cœur. Il avait besoin de cela parce que sa fille était dans la balance. Sa foi comptait. Mais, tout d'un coup, le découragement est venu. Les preuves dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un de la maison de Jaïrus est venu pour dire « Ta fille est morte. Ne trouble plus le maître. » Quelle douleur d'être si proche de la guérison et que ça soit arraché. Et c'est à ce moment-là on peut imaginer ses émotions, ses réflexions en Jaïrus. Si seulement je suis parti plus tôt ce matin, j'aurais pu attraper Jésus à temps. Ou si seulement j'avais amené ma fille avec moi, elle serait vivante à ce moment. Imaginons le blâme qu'on peut se mettre dessus dans une telle situation. Et nous faisons la même chose, n'est-ce pas, dans nos propres vies. Nous remettons en question nos propres décisions et actions, des fois. Que de regrets, la pitié de soi, la culpabilité. Mais il y a aussi le blâme sur les autres. Si seulement cette femme n'avait pas touché les vêtements de Jésus, on serait déjà à ma maison. C'est sa faute à elle. On peut faire ça aussi. Ce sont des réactions humaines, tout simplement. Mes amis, il y a tant de choses dans ce monde où nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Aucun. Heureusement, nous avons un Dieu qui surveille. Heureusement, nous avons un Dieu qui nous écoute. 24-7. Et ici, on a le point tournant du passage. Tout bascule ici. Parce qu'à ce moment-là, Jésus prend charge de la situation. Il dit à Jaïrus, « Ne crains pas. » Crois seulement. Puis Jaïrus, à ce moment-là, commençait à suivre les directives de Jésus. Avant, c'était Jésus qui suivait Jaïrus parce qu'il fallait arriver au bon port. Mais maintenant, Jaïrus suivait les directives de Jésus et tout a basculé. Jésus dirigeait la situation et donnait les ordres. En entrant à la maison de Jaïrus, il a demandé le calme. Il n'y avait pas besoin de pleurer, de crier, etc., puisque la fille était juste en train de dormir. Oh là là! En disant cela, ils se sont moqués de lui, tout autour de Jésus. Dans l'évangile de Luc, le texte est écrit dans cette manière, ils se moquaient de lui, sachant que la fille était morte. Ils étaient sûrs qu'elle ne vivait plus. Et en plus, les amis, ils avaient raison. Elle était bien morte. Mais la vie est un cadeau de Dieu. Et c'est Dieu qui règne dessus. Et les gens ne comprenaient pas ça du point de vue de Jésus. Et pourtant, on a eu un verset que Xavier a lu tout à l'heure, 1 Samuel 2:6. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Wow, ça c'est quelque chose. Ça c'était écrit dans l'Ancien Testament, ici on est au Nouveau Testament, et mes amis, le Seigneur vit encore aujourd'hui, il est parmi nous. Apprenons ces bonnes nouvelles de l'Écriture. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Pour établir une atmosphère de foi, Jésus fait sortir tous les non-croyants, si je peux le dire comme ça. Il a laissé entrer seulement les personnes qui avaient une capacité de croire ou qui désiraient un miracle. Et là, ça, c'est un bon exemple pour nous aujourd'hui. Si on va rassembler les gens de prier pour soit une guérison, un miracle quelconque, etc., ça vaut la peine d'avoir les gens autour de nous qui croient, qui désirent ardemment de voir le Seigneur à l'œuvre. Il est encore à l'œuvre. Et voilà, le deuxième miracle se passe. Il a saisi la fille par la main en disant « Lève-toi !» Et son esprit est revenu en elle. Les parents, Pierre, Jacques et Jean, étaient étonnés. Imaginons leur joie. Quelques minutes après, je pense que d'abord c'était l'étonnement. Je ne crois pas à mes yeux, ça ne peut pas être possible. Est-ce que je vois bien? J'ai besoin d'aller à l'optométriste ou bien je ne sais pas quoi. Mais imaginons leur joie. Mais je dois dire que ce ne serait pas si étonnant en comparaison des moqueurs qui seraient mis au courant prochainement. Imaginons leur niveau d'étonnement. Le commandement de rien dire aux autres, gardez ça pour vous. Je comprends le pourquoi de cela, parce que la foule, une certaine partie de la foule, voulait toujours faire de Jésus un roi, chef militaire. Les Romains vont s'en aller parce que Jésus va être notre chef, etc. Donc Jésus disait non, ça je ne veux pas. Mais franchement, réfléchissons, de dire ne dites rien là-dessus, ça c'est inutile, caduque, ça fait plutôt un non-sens de dire une telle chose. Voilà, toute la ville allait être bouleversée par ça. Matthieu 9, 26 dit, le bruit s'en répandit dans toute la contrée, bien au-delà de la ville. Et autant plus de bruit s'est répandu, je pense que c'était multiplié, parce que je suis sûr que les moqueurs avaient déjà dit librement à tout le monde la stupidité de Jésus de dire « elle dort seulement ». Donc le bruit était déjà bien répandu et maintenant c'était inversé. Donc autant plus ça allait être multiplié et dit. Et à la fin, notez bien comme Jésus était si pratique. Il a dit qu'on donne à manger à la jeune fille. apprenons de ce petit détail. Apprenons-nous. Est-ce que des fois nous attendons les grands miracles en place d'aider les autres autour de nous dans les manières tout à fait banales? Est-ce qu'on a toujours besoin d'un miracle? Bon, les besoins sont là, ça c'est sûr. Mais combien d'autres besoins sont là autour de nous, à droite et à gauche dans nos vies? Qu'est-ce qu'on est en train de faire face à ces besoins? Donc, pour une mise en pratique d'un tel passage aujourd'hui, tout simplement, je nous dis, et je m'inclus là-dedans, marchons par la foi. Prions à Jésus. Croyons en lui pour nos besoins. Les besoins sont là, nous en sommes tous au courant. Comme Jairus, croyons, prions. Jairus l'a fait par le désespoir. Jairus l'a fait à cause de son amour pour sa fille. Et je pense que pour nous aussi, on a plein de liens d'amour avec les gens autour de nous. On voit les besoins pressants, des fois dramatiques, devant nos yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Prions pour les malades. Et là, certaines personnes disent, mais je n'ai pas le don de guérison. Et moi non plus. Je n'ai pas le don de guérison. Mais j'avoue que j'ai prié pour des centaines de personnes dans ma vie. Des centaines. Pas parce que j'ai un don de guérison, mais parce que la Bible dit, prie pour les malades, tout simplement. Et j'essaie d'être obéissant à ce que la parole dit. J'ai aussi un cœur de compassion. Je n'aime pas voir les gens souffrir, surtout pas face à moi. Donc, je le fais. Et je dois admettre, j'ai un taux de pourcentage de réussite minime dans le domaine. J'ai vu dans ma vie à peu près une trentaine de gens guéris. Que 30! J'ai prié pour des centaines! Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois vous dire, le mot final là-dessus, c'est pas combien étaient guéris. Est-ce que c'était régulier? Est-ce que c'était spectaculaire? Etc., etc. Ça, c'est pas le but. Le but, c'était d'être obéissant, d'être compatissant comme Jésus. On laisse les résultats entre les mains de Dieu. Mais je peux vous dire juste un petit secret. Vous gardez ça pour vous. Pour la trentaine de personnes qui étaient touchées, guéries par le Seigneur, ils avaient une telle joie, une telle bénédiction. Certaines afflictions qui ont changé le cours de leur vie, carrément. D'autres personnes, ils reniflaient, ou bien ils n'étaient plus en train de se moucher avec des allergies. D'autres personnes n'avaient plus de mal à la tête, ou d'autres. Peu importe. Jésus a répondu. Et il y avait de la joie chez ces gens-là. Soyons ceux qui produisent la joie en mettant notre foi en marche. Et franchement, il y a toujours cette question. Tant bien, tu as prié pour des centaines, il y avait si peu qui étaient guéris. Et les autres, je ne peux pas parler pour Dieu. Mais je peux dire qu'une trentaine de personnes se réjouissent. Ça vaut la peine de prier, de demander. Et ce n'est pas juste les guérisons physiques ou psychiques ou émotionnelles. Ça peut être une situation financière. Ça peut être quelqu'un qui se trouve contre des attaques personnelles, contre leur vie. Il y a toutes sortes de situations pour lesquelles on peut prier. On n'obtient pas chaque fois la réponse qu'on demande. et je ne sais pas pourquoi. Mais les amis, je prie. Et quand il y a une réponse, et je peux remplir le prochain demi-heure au moins pour parler d'autres situations où Dieu a intervenu. Et je dis pour chacune de ces personnes aussi, quelle bénédiction dans leur vie. Prions pour les malades. Donnons à manger aux affamés quand possible. Et cela, si ça s'agit de la nourriture, d'écouter quelqu'un, offrir une aide pratique ou autre, faisons-le. Des choses tout à fait banales. Proverbes 3, 27, 28 sont des versets à mémoriser. Proverbes 3, 27, 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne refuse pas. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je donnerai à ce moment-là, quand tu as de quoi à fournir maintenant. Ça, c'est un sacré défi que le Seigneur nous laisse. Plutôt pas un défi, plutôt un ordre. Il faut le vivre. Cherchons, écoutons le Seigneur en toutes choses. Prions. Seigneur, que ces réflexions nous aident à croire et agir différemment. Nous avons la bénédiction de lire ces passages, de savoir ce qui s'est passé maintes fois dans maintes situations, circonstances écrites dans la Bible. Et Seigneur, c'est pour façonner et tracer un chemin pour nous à suivre. Que nous puissions être trouvés fidèles de suivre ce que tu nous as tracé. Vraiment, de pointer les gens vers toi pour ta gloire et pour leur vie d'être bénie. Amen.